France Culture.
Beautiful. You can go see your judges. Thank you. Je pense que vous avez vu, que mon collègue l'a montré, le carton vert. Ça veut dire que ces candidats-là restent dans le concours. Et on va les laisser retourner sur scène.
C'est bizarre, le tatou, c'est... Comme j'ai pu remarquer après 43 ans dans le métier, avoir vu mes parents le faire avant moi, c'est que la plupart du temps et le plus souvent, l'envie arrive avant le motif. C'est plutôt primal. On se réveille un jour et puis on a cette envie de se faire tatouer. Et après, on passe un peu de temps à trouver un motif qui nous convient,
Philippe Leu,
qui exprime nos sentiments.
Star des tatoueurs lors du Mondial du Tatouage 2026.
Le comment et le où et tout ça, c'est facile. Mais pourquoi est-ce que la Villette ici et plein de gens qui se font tatouer, c'est dur vraiment cerner clairement et dire « Ah, ils se tatouent à cause de ça ». Non, il y en a... C'est une... Je sais pas, vous n'êtes pas tatoué, toi ?
Non.
Ouais, je ne peux pas le dire assez, c'est douloureux. C'est un rite, c'est un passage, c'est... Pas tout le monde est capable. C'est élusif et subtil, le tatou aussi. Et c'est parmi nous depuis le début du temps, cette idée de se décorer le corps, c'est un phénomène mondial.
Tatouage, des mondes sur la peau. Une série documentaire de Jérôme Sandelars, réalisée par David Jacoboliez. Épisode 4, une histoire universelle. La première habitation dans laquelle nos guides nous firent entrer fut celle du chef, au roi de la nation, qu'ils appellent Ketenoui. En un instant, elle fut remplie de femmes qui se succédaient pour nous considérer sur toutes les faces, en nous faisant tourner de droite et de gauche, et d'hommes qui ne cessaient de nous pincer la peau pour nous tâter, ce qui, tout en nous déplaisant beaucoup, nous faisait craindre d'être destinés à être mangés. Précis historique et véritable du séjour de Joseph Cabri, natif de Bordeaux, dans les îles de Mendoza, situées dans l'océan Pacifique. Pourtant, pendant 4 mois environ, nous avons été traités par ces insulaires avec beaucoup d'égards et de soins. À cette époque, le Ketenoui nous engagea à nous faire tatouer partout le corps, ce qui, chez ces peuples, est le signe de la virilité. Les enfants ne pouvant l'être avant 12 ou 14 ans, et les femmes ne l'étant que sur les lèvres, le bas des oreilles et les extrémités des pieds et des mains. Cette cérémonie nous fut faite par un insulaire, qui se servit pour cela de plusieurs espèces de pâtes à rayer du papier de musique, faites en bois de bambou ou d'os de poisson, dont les pointes sont extrêmement aiguës, refouillées sur une face pour recevoir le jus d'une herbe que l'on introduit entre cuir et chair à l'aide de piqûres et qui donne à tous les dessins une couleur d'un bleu pareil au tournesol. Après cette cérémonie, qui nous incorporait à cette nation, nous fîmes choix chacun d'une femme, que nous épousâmes suivant l'usage de ces insulaires qui consiste simplement dans la demande agréée des parents de la femme, que terminent un repas et des danses où l'on invite les voisins. Michel de Poissy, il y a... Une figure, c'est ce corsaire, Joseph Cabri, celui que vous appelez le premier. Donc là, on est en Polynésie, c'est ça, sur l'île de Nuku'iwa, fin 18e. Qui c'est ce Joseph Cabri ?
Joseph Cabri, c'est pas un corsaire, hein, c'est un petit mousse. Hein, il a 14 ans, enfin comme tous les mousses, hein, entre 9 et 14 ans. C'était l'âge, à l'époque, hein, quand on voulait être militaire ou marin... Les petits tambours majeurs sous Napoléon se faisaient tatouer de force, ils avaient 9 ans. Hein. Donc Cabri, lui, il part à 14 ans.
Michel de Poissy.
Sur un baleinier. Et puis effectivement, il y a un
tatoueur,
un naufrage.
Et spécialiste de l'histoire du tatouage en France.
Qui va arriver, comme ça arrive souvent, et il va être récupéré par les habitants. Il va être plutôt accepté. Il va se faire tatouer, puisque le roi le prend en amitié, va vouloir le marier à une de ses filles. Et donc, il va devenir le gendre du roi, donc avec un statut social aussi important. Il faut être tatoué pour montrer son statut social. Et ensuite, il va devenir juge. Donc, il va encore avoir un autre tatouage facial, celui-là, qui va montrer également la hiérarchie qu'il occupe au sein de cette société. Il va être presque kidnappé par un bateau russe. Et il va rester au service du tsar pendant des années, hein, vu qu'il sait très bien nager, puisqu'il était devenu insulaire. Il va apprendre à nager à l'élite de l'armée du tsar. Et puis, il va retourner en France, puisque Napoléon est plus là. Voilà, la royauté est un petit peu revenue, donc le tsar est un petit peu calmé. Donc Cabri fait la demande, il retourne en France, ça va devenir le premier phénomène de foire. Il pousse des cris, il est dans une végétation luxuriante, il a un espèce d'arme en bois à la main, il saute sur les gens, enfin bon, il fait peur. Et ça, c'est son agent hein, qui lui dit de faire ça. Et donc ça marche, ça fonctionne, les Parisiens, on s'en fout de Joseph Cabri.
Et ça interpelle tellement la curiosité que Louis XVIII demande à le rencontrer, à le voir. Donc on lui amène ce fameux Joseph Cabri. Et il va y avoir un certain nombre de personnages importants lors de cette entrevue, dont Pasquier, qui est le ministre de la Justice.
Franck Sénateur, président de l'association d'histoire pénitentiaire Fatalitas.
Et donc Pasquier va comprendre à ce moment-là, tatouage, le mot tatouage est donné par Cabri, et le tatouage, ça devient un moyen d'identifier les récidivistes.
Oui, parce que tatouage, en fait, à l'époque, ça vient de tato, qui est un mot polynésien. Et donc, il va se transformer en tatou côté anglo-saxon et puis en tatouage côté français.
Voilà. Mais l'idée, c'est toujours la même. C'est le fameux tatou, tabou, etc., qui vient des sociétés, en fait, qui se tatouent, que ce soit en Chine, en Asie ou en Polynésie, déjà à cette époque-là. En fait, il existe. C'est juste que nous, on le connaissait pas, en fait. Alors, les navigateurs, effectivement, vont l'amener, mais pas que eux, puisque donc des héros involontaires de cette histoire, comme Joseph Cabri, vont aussi finalement être des témoins et vont être des petites lampes qui vont amener à diffuser l'information et à la faire connaître.
Où est-ce qu'on se trouve, là, Émine ?
Bonjour, là vous vous trouvez dans mon bureau, enfin un de mes bureaux. Je suis directeur de la communication pour une marque de prêt-à-porter suédoise et donc on est dans notre showroom aujourd'hui.
Et face à nous, un grand miroir.
Tout à fait, miroir de la vérité.
Quand vous regardez dans ce miroir, qu'est-ce que vous voyez ?
Alors je vois une personne quarantenaire qui n'a plus la fougue de ses 20 ans et qui est marquée aussi par un passé un peu fougueux. Voilà, donc c'est ce que je vois, c'est mon visage et le corps qui a pris cher, on va dire.
C'est-à-dire
beaucoup de fatigue, beaucoup de marques et d'histoires qui sont tatouées aujourd'hui sur mon corps. Voilà, donc qui reflètent un peu qui j'étais, qui je suis et qui je suis devenu. Voilà.
Pourriez-nous les montrer ?
Je peux les montrer. Je peux commencer par tout premier, qui est un signe tribal. C'est un tatouage que j'ai fait à Ibiza quand j'avais 19 ans. C'était fin 90, début 2000, avec des amis, un peu sur... alors, pas forcément sur un pari, mais on avait ce désir de me faire tatouer, une amie de se faire percer le nombril. Voilà, c'était vraiment très symbolique de notre époque. Et en fait, voilà, sur un coup de tête, on l'a fait. Tellement sur un coup de tête que ce tatouage, je l'ai choisi sur un classeur.
Qu'est-ce qui représente exactement ce tatouage ?
Alors, l'innocence des 19 ans, après en termes de dessin, absolument rien, c'est vraiment un signe tribal que vous trouvez dans tous les classeurs de n'importe quel tatoueur, je pense que ça doit être le numéro 13 ou numéro 14 dans chaque classeur. Voilà, donc ça c'était vraiment le premier, après il y a eu un peu plus de réflexion sur ceux qui ont suivi sur les 11 d'après.
Parce qu'il y en a 12.
En tout, il y en a 12, exactement. Un peu dissimulé un peu partout sur mon corps. Alors, c'est vrai que moi, je fais pas de tatouage, on va dire, visible. C'est-à-dire que si vous me croisez dans la rue, voilà. Enfin, vous pouvez pas deviner que j'ai des tatouages. Je les fais pas pour une exposition quelconque.
Aussi par rapport à votre travail ou...
Alors, tout à fait. Je cumule déjà une difficulté à l'embauche. Je suis rebeu, donc je ne vais pas m'en rajouter d'autres. Donc oui, non, clairement, il y a ce côté travail. Il y a aussi le côté famille. J'ai été élevé dans la religion musulmane, donc normalement, on n'est pas censé se tatouer le corps, avec quelques exceptions du côté berbère, par exemple, parce que mes grands-mères avaient des tatouages sur le visage, par exemple. Donc c'est pas anodin, mais normalement, dans la religion musulmane, on n'a pas le droit de toucher au corps. Et donc oui, donc au départ, c'était vraiment aussi pour le cacher à ma mère. Enfin, que le tatouage soit pour moi et pour les personnes qui me voient nu, mais pas, pas les autres personnes. Voilà.
Ça va,
si tu... Ouais, non, mais... Yeah.
Pour la petite histoire, donc encore une fois, à Ibiza, moi je me fais tatouer, ma pote se fait percer le nombril. Et pour vous dire à quel point j'étais vieux, on était en vacances avec d'autres personnes et un de nos amis nous suivait avec son caméscope. Et donc forcément, j'ai une VHS chez moi, de moi allongé sur la table de tatouage. Et donc le tatoueur commence à me tatouer. Le tatouage se situe vraiment sur le bas du ventre, entre l'os de la hanche et les abdos. À l'époque, j'avais des abdos.
Au moins que tu vas avoir ce temps gravé. Le reste de l'éternité déjà. Tu l'as gravé sur la peau, tu l'as gravé sur un film. Pour montrer à tes enfants quand ils te demanderont mais comment ça s'est passé ton tatouage, papa?
Si t'en as.
Si t'en as déjà. Moi, bon, tes neveux.
Et je regarde la caméra droit devant en me disant hey, t'imagines si un jour j'ai un bourrelet là? Et bah, le bourrelet est arrivé. Et le bourrelet est là aujourd'hui. Et donc, à chaque fois que je vois ce bourrelet, que je vois ce tatouage, on va dire déformé par, par le temps, bah voilà, là je rigole parce que je l'ai. Et c'est sur VHS.
Non, 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 non,
dans le courant des années 90, il y a eu un boom du tatouage tribal. Beaucoup de tatoueurs se sont mis à s'intéresser à Bornéo, aux Marquises, à Tahiti.
Sébastien Gallio.
Et donc les Samoans étaient connus pour avoir un style de tatouage particulier.
Ethnologue au centre de recherche sur l'Océanie à Marseille.
Et dans leur communauté, ils tatouaient principalement des jeunes hommes de village pour le service de la chefferie. Parce que c'était un petit peu l'objectif du tatouage à Samoa, c'est de fabriquer une cohorte de jeunes hommes pour le service et la défense du village. Autrefois, il fallait aussi défendre le village en cas d'attaque. Donc, c'était des jeunes hommes, voilà, des valeureux jeunes hommes très musclés, très forts, qui ont peur de rien. Et des jeunes hommes qui savent aussi faire des préparations culinaires particulières pour certaines réunions, qui savent servir la boisson cérémonielle, qui connaissent l'étiquette et l'art oratoire. Et donc, ça servait à ça, le tatouage, ça servait à valider des compétences sociales. Et en fait, la première étape, c'est la circoncision, en réalité. C'est pas que le tatouage, il faut d'abord être circoncis et ensuite tatouer. Si on n'était ni circoncis ni tatoué, les chances de trouver une épouse étaient extrêmement réduites. On était plutôt la risée des hommes du village, quoi. Et donc, il y a une connexion dans la tradition orale et dans certains proverbes entre la fin d'un tatouage et le début de l'activité sexuelle.
Les hommes et les jeunes femmes se font pas tatouer aux mêmes endroits. Mmh. Est-ce que leurs tatouages respectifs revêtent des symboliques différentes?
Alors, le tatouage, c'est uniquement sur les cuisses chez les femmes, et c'est un tatouage beaucoup plus aéré, qui s'apparenterait plutôt à des motifs espacés, très localisés, qui se ressemblent de loin à des petites étoiles. Autrefois, elle se faisait tatouer aussi le pubis, mais c'est plus vraiment le cas, à part dans de rares cas de jeunes Samoans qui auraient grandi à l'étranger, qui seraient allés à la fac, qui auraient fait des études supérieures et qui se disent « je me refais tatouer le pubis pour revendiquer une identité », mais on n'est plus dans le même contexte qu'une jeune fille en fait, à qui on impose un petit peu le tatouage. Aujourd'hui, on ne se fait tatouer que les cuisses. Et donc, comme je disais, les hommes, c'est quelque chose de beaucoup plus lourd, puisque c'est, contrairement aux femmes, pour lesquelles finir un tatouage prend à peu près 4 ou 5 heures, chez les hommes, ça prend plutôt 10 jours, à raison de 4 ou 5 heures par jour. Donc on n'est pas du tout sur le même type de souffrance et d'engagement physique. Quoi.
Et ça recouvre quoi, une grande partie du dos jusqu'au genou ?
Du milieu du dos jusqu'au genou. C'est invariablement toujours la même pièce, avec des micro-variations de décoration, de remplissage. Mais la pièce intégrale des hommes est structurée toujours de la même manière depuis qu'on a des sources écrites sur le tatouage samouraï.
C'est-à-dire ?
En fait, il faut s'imaginer que le tatouage samouraï, c'est comme une maison. C'est comme il y a une architecture invariable. Par exemple, on commence toujours dans le milieu du dos par un rectangle noir qui s'appelle le va'a, c'est-à-dire la pirogue. Et puis ensuite, on enchaîne avec une série de triangles et de trapèzes en dessous de ce rectangle noir en forme de pirogue. Et après, il y a une multitude d'autres motifs qui se déroulent jusqu'au genou. Mais il faut vraiment vous imaginer que tous ces motifs-là sont détachables. Et d'ailleurs, les tatoueurs les utilisent séparément lorsqu'ils tatouent des touristes ou des gens qui veulent se faire tatouer des choses sur les bras ou des petites pièces. En fait, ce qu'ils vont faire souvent, c'est qu'ils vont prendre une zone du tatouage masculin ou du tatouage féminin et ils vont l'appliquer sur une autre partie du corps.
Et si maintenant on entre vraiment dans la technique de tatouage, vous pourriez nous expliquer avec quels outils on tatoue aux îles Samoa ?
Alors, ce sont les mêmes outils qu'on utilisait dans tout le reste de l'Océanie austronésienne, c'est-à-dire tous les locuteurs de langue austronésienne, même jusqu'à Bornéo. Donc c'est une technique avec un percuteur, donc une baguette, et un outil qui peut ressembler à une espèce de mini râteau muni de pointes. Donc c'est des pointes qui peuvent être faites à base d'aiguilles de citronnier, d'os d'oiseau, de défense de cochon sauvage comme à Samoa, ou aujourd'hui, beaucoup plus fréquemment, d'aiguilles en acier qu'on achète chez des fournisseurs professionnels sur Internet. Mais la technique reste la même. Donc une technique par percussion. Donc un fond de tatouage assez extrême, parce que la technique est très douloureuse. Les instruments sont faits à base de défense de cochon. Donc il y a tout un ensemble de choses qui font que les jeunes hommes prennent des risques. Et effectivement, tous les ans, jusqu'en 2010, il y avait des morts. Et à Samoa, on estime que si on développe une plaie inhabituelle, c'est que le patient a quelque chose à se reprocher. Il a un problème de relation avec son clan à gérer. Donc on part tout de suite sur voilà, des pratiques sexuelles non conformes à la moralité locale, ou alors un problème de gestion de dons avec un membre de sa famille qui n'a pas été réglé, ou une funéraille qui aurait mal été faite, enfin voilà. Aujourd'hui, peut-être ça a changé, mais à l'époque, c'était les tatoueurs se défendaient toujours, même dans la presse, lorsqu'il y avait des décès. Ils disaient, c'est pas moi. Moi, j'ai donné toutes les directives. C'est la personne qui n'a pas fait le boulot rituel que je lui avais demandé de faire.
Sébastien Galliot, vous avez vu pratiquer des tatoueurs aux îles Samoa. Vous avez appris, donc, à votre tour, la technique. Et puis, vous êtes fait tatouer.
Oui. Oui.
Non, il ressemble à quoi votre tatouage ?
C'est en quelque sorte un échantillon du tatouage traditionnel, donc ce que les hommes portent sur la cuisse. Et les dernières fois où j'y suis retourné, en fait, on se moque de moi, on me dit mais en fait ton truc est pas terminé, qu'est-ce que tu fais là ? C'est pas sérieux ça. Bon, c'est en général des copains qui me disent ça, mais un tatouage pas terminé, c'est dans le contexte samoan, c'est pas terrible. Il faut avoir la pièce intégrale du milieu du dos jusqu'au genou.
C'est comme si vous étiez arrêté au milieu du rite de passage, quoi, c'est ça ?
Oui, et puis en plus, je l'ai pris à l'envers. C'est-à-dire que j'ai commencé par la jambe alors qu'il fallait commencer par le dos. Enfin, j'ai tout fait en dépit du bon sens, quoi. À Samoa, on n'est jamais tout seul. Il y a toujours quelqu'un qui fait et quelqu'un qui ne fait pas, mais qui est là pour encourager l'action.
On les voit même comme ça, passer un éventail au-dessus du visage du tatoué.
C'est comme ça que j'ai commencé mon ethnographie. C'est-à-dire qu'au départ, j'allumais les clopes des tatoueurs. Après, ils m'ont dit, tiens, prends un éventail et chasse les mouches. Donc, j'ai chassé les mouches. Et puis, au fur et à mesure, on rentre progressivement plus près du corps du tatoué. Et puis, plus récemment, je suis devenu stretcher.
C'est-à-dire ?
Pour tatouer, il faut des gens qui tirent la peau. Il en faut au moins deux ou trois, donc voilà, c'est un rapprochement progressif vers le centre de l'action.
L'engouement international pour le tatouage tribal, est-ce qu'il y a eu des tatoueurs qui sont devenus des ambassadeurs de cette culture ?
L'engouement du tatouage tribal dans les années 80, on peut le rattacher à une poignée de personnes. Il y en a un qui ouvre un musée, c'est Lyle Tuttle à San Francisco, et puis en 72, il va aux îles Samoa. Ed Hardy, il est en contact avec Sailor Jerry à Hawaï, qui est lui-même en contact avec des tatoueurs japonais. Et il rencontre Leo Zulueta, qui est un jeune tatoueur qui veut faire des têtes de mort, et lui dit non, tu devrais plutôt faire du tribal, c'est plus intéressant. À l'époque, dans les années 70, les tatoueurs occidentaux sont au ras des pâquerettes par rapport aux japonais. En termes de technique, de virtuosité, d'imagerie, voilà. Donc Ed Hardy a ça en tête aussi. Il dit en fait, il faut qu'on épuise un peu en faisant des emprunts culturels à l'Orient et à l'Océanie. Mais il y a aussi toute une branche des amateurs de tatouages non occidentaux dans les années 80 qui étaient plutôt branchés sur le côté rituel. C'est-à-dire qu'ils faisaient reproduire des tatouages ou des pratiques corporelles très douloureuses pour atteindre, dans une espèce de New Age un peu reconfiguré, des états de perception altérée ou des états de transe ou pour expérimenter des formes de douleur ultimes. Donc le tatouage samoan, à un moment donné, a pu aussi être sollicité par des occidentaux pour ça.
Bon, ça va, Xavier, ouais. Bien reposé.
Séance de tatouage intégral japonais entre Daru Manu et Xavier Durand au sous-sol d'un magasin de fleurs à Paris.
Ouais, donc là, ça a bien guéri, là, ce qu'on a fait la dernière séance.
Ouais, c'est pour ça que j'en reviens.
Ouais, on va faire le bas du ventre aujourd'hui. Hein. Je vais te faire cette grosse volute là, de nuages là, qui s'enroule sur ta hanche. Puis on aura un petit peu de couleur hein, avec il y a trois petites feuilles d'érable à compléter. Comme ça, on fait juste cette zone. Voilà, comme ça, on se disperse pas ailleurs. Tu auras juste cette zone-là à cicatriser, ça sera plus pratique. Allez, c'est parti, je vais monter un petit magnum de 7 là pour... pour faire le remplissage du rouge là dans les feuilles.
Tac.
On se croirait dans un film de gangster là, on parlait de Magnum. C'est pas le Magnum 45 mais presque.
Pour remplir, on va utiliser, j'ai sorti l'artillerie lourde, là j'ai des Magnum de 23 je crois. De 23 et demi pour aller un peu plus vite.
Et donc là, vous essayez d'obtenir un dégradé de noir.
De noir, ouais, c'est ça.
De gris.
De gris, ouais.
Attends, ça.
Après, mes gris sont assez soutenus. Hein. Je suis quand même connu pour avoir des gris assez foncés. Hein. C'est ce qui reste le mieux, je trouve, dans le temps. Et puis, ouais, c'est ce qui fait mon caractère, on va dire. Culotté sans la frime, voilà. Franc du collier, quoi.
C'est votre dos qu'on voit ici en photo, Xavier Durand.
Oui, c'est effectivement une photographie de mon dos.
Qu'est-ce qu'il représente, votre tatouage, alors ?
Eh bien, ce tatouage, c'est le terme japonais Korikaraken, qui est à peu près intraduisible en langue française, mais qui figure en fait un glaive, une épée, dont la poignée est orientée en bas et la pointe vers le haut.
À la limite de l'arrêt des fesses. Hein.
Exactement, qui démarre pile poil au niveau des reins.
Et qui suit le parcours de votre colonne vertébrale.
C'est ça. Et qui s'arrête quasiment au milieu des épaules. Et autour de cette épée, il y a un dragon avec la tête qui est au-dessus de l'épée et notamment la gueule de ce dragon qui vient croquer la pointe de l'épée.
C'est presque une œuvre d'art que vous avez sur la peau.
Souvent, c'est une question que mes proches abordent. Ils me disent « Ah, mais t'es une œuvre vivante. Moi, je vois pas ça comme ça. Je vois plutôt comme peut-être la chance d'avoir ma propre estampe gravée dans la peau. Un tatouage, entre guillemets, intégral japonais. Beaucoup aimeraient avoir un tatouage comme ça parce que esthétiquement, effectivement, c'est magnifique. Pour autant, combien de personnes sont capables d'aller jusqu'au bout de cette démarche ?
Ouais, ça. Je pense que le bodysuit, le tatouage japonais, ça vient du peuple, de la rue. Faut qu'il y ait un côté un peu rough, hein. Voilà, faut que ça sente. Ouais, la dureté de la vie. Ça évoque plein de choses, hein, le tatouage. Ça fait mal.
Donc bodysuit, c'est un tatouage qui recouvre presque tout
ouais,
le corps.
Body pour le corps et suit pour
costume.
Costume, costard, ouais, le costard d'encre, costard de peau, quoi.
Donc un corps habillé. Quoi.
Corps habillé, c'est ça. Ouais, ça le sublime, ça.
Ah, il y a une expression d'ailleurs au Japon. C'est Nikujuban,
oui.
Qui signifie vêtement de chair. Oh.
C'est un rituel, ouais, douloureux, quoi. Un des derniers rituels qui nous restent, hein, dans notre civilisation.
Faut souffrir pour être beau, Xavier.
Je sais pas si je suis plus beau après ou avant. En tous les cas, oui, la gestion de la douleur, c'est une dimension fondamentale dans cette prise de décision de s'engager dans un tatouage intégral. Dans une société actuelle où finalement on a l'impression que tout est accessible de façon simple et aisé. Là, c'est plusieurs années, c'est un engagement entre un artisan et un client. Et oui, il faut être capable de se dire est-ce que tu vas endurer ça, quoi.
Vous avez passé combien d'heures ensemble ?
Pas loin de 200 et des poussières, ouais. Parce que les deux premiers bras.
C'est à peu près une vingtaine d'heures, généralement 20, 25
ouais,
heures, donc 50 heures.
Bras, ça fait 50. Le dos, je pense que 70, c'était 70-80.
200 heures, ouais, facile.
Vous êtes un autodidacte ou vous avez fait une école de graphisme ou de...
Non, alors moi je suis un autodidacte. J'ai eu un parcours un peu chaotique à l'école. Je suis allé jusqu'au niveau bac et ensuite, avec la première solde de l'armée, j'ai acheté du matériel de tatouage et j'ai commencé à tatouer dans le régiment où je faisais mon service militaire. Qui était le 13e régiment de dragons parachutistes.
Voilà. Donc, j'ai un
ouais, déjà, voilà, s'il y avait un signe.
Vous avez commencé par tatouer des militaires.
Ouais, moi j'ai commencé par tatouer le sergent qui m'avait fait mes classes, tous mes confrères, enfin voilà quoi. Donc ça pendant une dizaine de mois quoi.
Ouais. Ils ont servi de cobaye.
Ils ont servi de cobaye, ouais, c'est ça. Et ouais, c'est des bons souvenirs, enfin voilà.
Comment vous êtes plongé dans cette culture du tatouage japonais, vous ?
Pour moi, en fait, esthétiquement, c'est le plus beau à arborer au niveau du corps. Son côté intemporel et la puissance de leur graphisme, en fait, qui a même plus de 200 ans, en fait, ça fonctionne toujours. Parce que l'on ait 20 ans, 40, 50, 60 ans, on va pouvoir évoluer avec son tatouage tout au long de sa vie, sans trouver ça un peu désuet à un moment donné, ou tiens, je suis plus trop en accord. Ou
À entendre Darumanu, on sent bien qu'il y a une forte symbolique derrière tous ces tatouages japonais, Xavier Durand. Sur quoi elle repose et est-ce qu'elle a évolué au cours du temps ?
C'est une bonne question. Et malheureusement, on n'a pas assez de mémoire sur les motifs qui étaient tatoués, notamment antérieurement à l'interdiction de 1872.
Qu'est-ce qui s'est passé en 1872 ?
Eh bien, le nouveau gouvernement de Meiji, pouvoir qui se met en place en 1868, confronté donc aux puissances occidentales, va décider un ensemble de mesures qui visent justement à non seulement moderniser la nation, mais surtout à effacer tous les aspects sociaux qui auraient, on va dire, un lien avec une démarche ou quelque chose de féodal. Donc on va avoir, j'allais dire, un peu comme à l'époque de la Révolution française, hein, une sorte de tabula rasa de l'Ancien Régime, et particulièrement une ordonnance qui a été donc promulguée en 1872, qui comporte l'interdiction de la nudité en public, et puis l'interdiction de la pratique du tatouage. Quand je dis pratique du tatouage, l'interdiction de porter un tatouage et l'interdiction de faire un tatouage. Donc on va avoir toute une mémoire qui va être complètement éradiquée, effacée, parce que les studios de tatouage, on va confisquer leur matériel, on va confisquer leurs dessins. Et les rares tatoueurs qui perpétuent encore cet art vont pouvoir opérer, notamment dans le port de Yokohama, qui est une zone franche, où là, paradoxalement, le tatouage japonais va commencer à s'exporter. Parce que cette pratique-là n'existe pas sous cette forme aussi élaborée et esthétique en Occident. Donc c'est dans ce port de commerce que, d'une part, les premiers voyageurs qui arrivent et qui découvrent le Japon sont confrontés à ces tireurs de carrioles qu'on appelle les jinrikisha, qui sont tatoués de la tête aux pieds, comme l'évoquent d'ailleurs certains voyageurs. Je pense notamment à Ludovic de Beauvoir.
Oui, Kraft aussi.
Oui, Kraft, un peu plus tard, effectivement, qui a séjourné au Japon en 1881 et 1882.
Bon, collectionneur.
Grand collectionneur d'art, qui était aussi photographe amateur, qui a notamment immortalisé son tireur de carriole, qui s'appelle Kin. Donc il l'a à la fois photographié, mais il l'a aussi illustré en aquarelle. Il élève ce tatouage japonais au rang d'art, de démarche artistique.
Kin est, avec un autre coureur de notre bande, le seul homme tatoué que nous ayons autour de nous. Chacun sait que le tatouage décoratif a joué un grand rôle dans la classe populaire, en particulier chez les Beto, les Saï japonais, qui, courant en avant des chevaux avec le fundoshi pour unique vêtement, mettaient beaucoup d'orgueil à exhiber sur leur chair une espèce de maillot indélébile. Le coureur camarade de Kin est tout bonnement superbe. Il a un véritable vêtement collant qui lui couvre tout le dos, les épaules, la moitié des bras, les côtes et les cuisses. Des dragons, des fleurs, des têtes de héros semblent y jouer à cache-cache. Quant à Kin lui-même, il n'est pas encore terminé. Ses moyens ne lui ont pas permis de faire exécuter plus que les contours bleus des arabesques qui l'envelopperont un jour, si le jeu, cette passion nationale, le traite mieux que par le passé.
Hugh Kraft, souvenir de notre tour du monde, 1885.
On a aussi une autre corporation, moins visible parce que du coup les Occidentaux ne sont pas confrontés à cette corporation-là, que sont les pompiers et les charpentiers. Le tatouage de pompier, par exemple, a une fonction singulière qui est celle de la protection.
Un talisman, quoi.
Un talisman, exactement. Donc les deux thèmes privilégiés par cette corporation sont le dragon et la carpe.
Pourquoi ?
Le dragon, parce que le dragon, contrairement à notre représentation en Occident, n'est pas un animal mythologique associé au feu, mais à l'eau.
Idem pour la carpe ?
Idem pour la carpe.
Le tatouage, Xavier Durand, il incarne aussi un certain nombre de valeurs.
La valeur de la transformation, par exemple, ça c'est une première valeur qui est portée. L'endurance, et on a un terme qui s'appelle gaman en japonais, qui signifie la capacité à endurer. On va retrouver ça aussi dans la volonté d'orner son corps d'un tatouage.
Tac, tac, tac. Hop, tiens, on va en profiter, je vais remplir la petite feuille d'érable, là. Tac, tac.
Là, on n'entend plus Xavier, hein, il ferme bien sa gueule.
C'est magnum. Ça, c'est la sulfateuse maintenant.
Ah,
Ce que j'ai découvert, Xavier Durand, c'est qu'il y a un lien finalement entre la taille de ces tatouages et le kimono.
Effectivement, on a un aspect formel du tatouage qui correspond aux vêtements de type kimono-veste, donc qui va s'arrêter au milieu des avant-bras, qui va s'arrêter au milieu des cuisses et qui va laisser une large bande, enfin une large, plus ou moins large, bande centrale, vierge, au niveau du torse.
Qu'on appelle le Munewari, rivière de peau. Ça reprend vraiment l'idée d'une veste qu'on a enfilée, quoi. Hein. Donc, c'est une veste d'encre.
Comme si elle était entrouverte, quoi.
C'est ça, ouais, entrouverte. Et à partir de la Seconde Guerre mondiale, les Munewari ont commencé à s'élargir, parce que, en fait, les GI ont apporté les belles chemises hawaïennes, donc qui étaient plus ou moins entrouvertes au niveau du sternum. En fait, ça permet à la mort du tatoué que son esprit puisse s'échapper en fait de ce corps emprisonné par le tatouage. Donc cette fine bande de peau vierge va permettre à l'esprit de s'échapper et de monter dans l'au-delà, quoi.
Alors, je suis Flesh Love, artiste, interprète, productrice de musique, suisso-amazigh, et qui s'intéresse à plein de choses. Voilà, extrêmement curieuse. Je pense que ça, c'est quelque chose qui me définit bien.
Une de vos particularités, Flesh Love, c'est d'être une véritable toile vivante. Vous avez des tatouages à peu près partout sur le corps.
Ouais, un musée gratuit. bah oui, mais on s'en rend plus très compte. C'est souvent dans le regard de l'autre qu'on se rend compte qu'on a beaucoup, beaucoup de tatouages, parce qu'on finit par les intégrer. Mais vu que moi, ça fait aussi partie de l'identité, donc du coup, Shawiya Amazigh, il y a un processus qui est un peu différent que si c'était juste des tatouages esthétiques. Et pour ma part, je pense peut-être que la connexion s'est faite aussi parce que j'ai étudié à l'université ethnologie, sciences et histoire des religions. Donc j'avais déjà aussi ce lien au tatouage et tous ces rituels de passage qui étaient souvent accompagnés par des tatouages dans différentes cultures, hein, pas uniquement la culture amazigh. J'ai trouvé ça beau et touchant. Ouais.
Amazigh, ça veut dire quoi ?
Alors, du coup, pour celles et ceux qui connaissent pas, je pense que le terme berbère est plus parlant. Cependant, c'est un terme qui a été donné par les Romains qui vient de Barbarus, c'était tout ce qui était étranger à la culture gréco-romaine et qu'ensuite qui a été réutilisé notamment par durant la colonisation par les Français. Donc le peuple amazigh, c'est plusieurs tribus en fait qu'on trouve de par l'Algérie, le Maroc, la Tunisie. Et moi, je fais partie d'une de ces tribus qui s'appelle les Chaouis, qui sont situés à l'est de l'Algérie.
Pourriez-vous nous les décrire, ces tatouages ?
Alors du coup, ce sont des tatouages qui ne représentent pas vraiment concrètement un objet ou un animal, mais ce sont plutôt en général des traits et des points. Par exemple, sur mon visage, j'ai un trait central avec sur les deux côtés des points. Et ça, ou bien j'ai aussi deux triangles avec des petits triangles au bout qu'on appelle la grenouille. Et ça, c'est censé apporter fertilité, magie. C'est-à-dire que tous ces tatouages sont pas juste faits pour être ornementaux, mais sont censés apporter aussi des vertus. Et donc, du coup, dans ces vertus-là, il y a la fertilité, repousser le mauvais œil, il y a la richesse, il y a la sagesse, il y a la magie. C'est un peu Harry Potter en tatouage. Voilà.
Alors ça, c'est pour le visage, mais vous en avez aussi sur le buste.
Oui.
Vous en avez dans le dos, vous en avez sur les bras.
Oui.
Ces tatouages, ils font véritablement partie de votre identité d'artiste, mais peut-être aussi de femme.
Oui, bah maintenant, oui. En tout cas, moi, dans ma famille, c'était les femmes plutôt qui étaient tatouées, même si on trouve quelques hommes qui ont été tatoués. Et c'était durant une cérémonie pour le mariage. Moi, je ne l'ai pas fait pendant le mariage et j'ai décidé de le faire de mon propre gré. Et pour moi, c'était une façon de me reconnecter avec cette culture parce que ma mère a émigré en Suisse quand elle avait 30 ans. et comme de nombreux immigrés, elle a fait amende honorable, elle a voulu devenir la parfaite Suisse et n'a pas pu nous partager sa culture et notamment sa langue. Et du coup, bah, moi, j'ai essayé de me reconnecter comme j'ai pu. Et c'est vrai qu'une des premières portes pour moi, c'était les photos de mes arrière-grand-mères. Et donc, mon arrière-grand-mère, elle, elle avait seulement un trait, en fait, qui part de la racine des cheveux à peu près entre les sourcils. Et donc là, on voit déjà que c'est une génération où il y a moins de tatouages. Et puis, mon arrière-grand-mère, alors là, elle a vraiment un ornement sur le front assez complexe. Elle a des losanges sur les joues. Et elle a un trait qui part de la lèvre inférieure et qui va, je pense, jusqu'au cou, parce qu'on voit pas très bien, parce que la photo est en noir et blanc et elle est un peu abîmée, avec différents traits qui partent de part et d'autre. Donc, on voit déjà d'une génération à l'autre, le tatouage se simplifie, sachant que ce qui est complexe, c'est que l'Algérie est un pays qui a été aussi colonisé par les musulmans et que les musulmans eux-mêmes ont assassiné de nombreux Amazigh. Et donc, c'est une culture qui a été mise de côté. Je sais que ma mère n'a pas pu apprendre la langue à l'école. Le drapeau a été interdit pendant longtemps et la pratique du tatouage est considérée par les musulmans comme une pratique, pour le coup, barbare, parce qu'il faudrait pas altérer ce que Dieu nous a donné naturellement. Aujourd'hui, on retourne à cette culture. Je pense que c'est les nouvelles générations. Internet doit aider aussi.
Donc, vous faites partie, vous avez 35 ans. Vous,
c'est hein. Ça, exactement. Donc, il y a une espèce de retour aux sources, mais des sources qui sont disséminées un peu à droite à gauche. C'est souvent des traditions orales. Malheureusement, les tatoueurs et tatoueuses sont décédés, les arrière-grand-mères aussi. Donc, il y a quelques livres de référence, mais plus grand-chose.
À quelle période de l'année se faisaient les tatouages ?
À l'automne.
Et pourquoi cette période ?
Dès que le froid arrivait, la température était bonne. En automne. En été, ça s'infecte. En hiver, il fait trop froid, c'est trop douloureux. On faisait donc ça dès le début de l'automne.
Extrait du film Tishrad de Idir Ben Chaban.
Je suis Aït Aïcha, j'ai 83 ans. Avant, toutes les femmes, elles étaient tatouées. Une femme non tatouée, c'était pas une femme. Pour se marier ou pour plaire, les femmes se faisaient tatouer. Elles faisaient trois comme celui que j'ai dans le cou, avec deux serpents entre eux. Cinq tatouages en tout. Celles qui n'en avaient pas, n'étaient pas de vraies femmes. Ainsi, elles étaient belles à leur mariage, lors des fêtes, belles chez elles. Les tatouages, ça les rendait belles. C'était ça notre beauté. Maintenant, ce n'est plus le cas chez les jeunes filles. Alors qu'à mon époque, pour être belle, fallait être tatouée.
Flesh Love, quel sens ils avaient à l'époque ces tatouages de vos arrière-grand-mères ou arrière-arrière-grand-mères ?
Déjà, ils en parlaient peu, mais en fait, il y avait cette idée que le visage féminin sans tatouage ressemblait à celui d'un homme. Et donc, il y avait cette dimension esthétique aussi de beauté et ensuite de guérison et thérapeutique. Si tu voulais garder ton mari, il y avait un tatouage que tu pouvais faire à l'intérieur de la cuisse. Et c'était pas toi qui choisissais le tatouage, c'était la personne qui te tatouait. En fait, en gros, c'est comme si elle ressentait un peu ton énergie, ce dont tu avais besoin. Après, il y avait peut-être des femmes qui le vivaient bien. Mais en tout cas, moi, dans ma famille, ça n'a pas été très bien vécu, de ce que j'ai compris. Et c'est ça qui est compliqué, c'est que ma grand-mère, par exemple, a vécu une partie de la colonisation française. Elles étaient déjà ostracisées par rapport aux femmes françaises, mais alors celles qui étaient tatouées, c'était vraiment des sauvageonnes, quoi. Et donc, pour elle, elle avait vraiment cette dimension, déjà, que l'école lui était interdite, d'être la paysanne, le dessous du panier, versus les femmes françaises qui étaient éduquées, qui n'étaient pas tatouées. Donc, ça la mettait encore plus à distance et dans cette dimension de l'étrangère dans son propre pays. Moi, j'ai pas vécu ça. Peut-être que je me serais pas fait tatouer si j'avais vécu durant la colonisation française, notamment.
À l'époque, donc, c'était un tatouage qui était subi, c'est ça pour ces...
Exactement, ouais. Oui.
Vous, c'est choisi.
Exactement. C'est ce que j'ai expliqué à ma grand-mère, parce que quand elle m'a vu en Algérie avec les tatouages, au début, elle était choquée. C'est-à-dire, mais qu'est-ce que tu as fait? Et puis quand je lui ai expliqué ma démarche en lui disant, bah, moi, dans ma famille, j'aimerais être la première génération qui choisit, puis qui honore cette culture aussi matriarcale, notamment peut-être que les auditeurs, ils connaissent la Kaïna, la Dia, qui était une grande dirigeante amazigh, qui a tenu tête aux musulmans et qui était chef d'armée. Elle était tatouée, elle était prêtresse. Donc moi, je voulais, et elle est Shawiya aussi, de la même région que ma maman. Donc je voulais honorer ces femmes-là. Et là, ma grand-mère, elle a compris. Elle s'est dit, OK, il y a autre chose qui se joue. Mais jusqu'à la fin de sa vie, c'était un peu étrange parce que pour elle, elle avait atteint une forme de liberté de ne pas avoir l'obligation de se faire tatouer.
Quand la terre tremble, c'est la peau tendue des enfants qui crissent, qui vibrent sous les doigts. Entends-tu le tambour? Le tambour cosmique, dis-moi, l'entends-tu?
Vous avez sorti deux albums, Flesh Love. Un premier qui s'intitule Naga, qui est un double album. Et puis un album plus récemment qui s'intitule Guérison. Est-ce que ces tatouages, donc, qui recouvrent votre corps, d'une certaine manière, participent aussi d'une forme de guérison?
Oui, moi je pense que oui, parce que ça m'a permis un enracinement, en tout cas, et une conscience que j'ai un corps. Et ensuite, pour pouvoir dépasser... Alors, je suis pas Bouddha, là, je suis pas en train de... je suis pas en train d'être au-dessus du siège pendant l'interview, mais... Déjà, la beauté, je pense qu'elle nourrit. Je me suis connectée aussi à une lignée, et je pense que ça donne de la force. Donc, tout d'un coup, même si c'était pas factuel, j'avais pas mes ancêtres à mes côtés, je me suis sentie reliée à toute une culture.
Moi, je suis d'origine algérienne. J'ai grandi en Algérie et j'ai côtoyé un peu ces femmes.
Rim Boudjema.
Mais sans vraiment me rendre compte et sans comprendre pourquoi elles se tatouaient, je ne m'étais jamais vraiment posé la question.
Spécialiste du tatouage amazigh.
Et à partir de là, j'ai commencé un peu frénétiquement à faire un tas de recherches. Parce que je voyais que ces symboles ressemblaient justement à tous ces symboles qu'on voit sur les tapis, sur des choses qui sont très connues dans l'artisanat. Mais j'ai découvert qu'il y avait une signification derrière où les femmes ancraient en fait des étapes de leur vie, comme le mariage, le deuil ou les maladies ou des moments hyper importants. Donc quelque part, c'est comme un moyen d'expression, un langage qu'elles se partageaient entre elles. Et moi, il y a un tatouage qui m'avait marqué en particulier, c'était le tronc du palmier. Donc c'est une ligne qui est sur le menton, tout en verticalité, avec des points sur le côté. Et en fait, les femmes se tatouaient cette première ligne au mariage, et puis à chacun des enfants, elles se rajoutaient un point de part et d'autre. Et une fois, une fille nous avait envoyé une photo pour essayer de décrypter ce tatouage. Et sur le tatouage de sa grand-mère, il y avait trois points d'un côté, et puis de l'autre côté, un point, puis un vide, puis un autre point. Et en fait, en creusant et en discutant avec cette personne, on s'est aperçu que c'est parce qu'elle avait perdu un de ses enfants à la naissance. Et donc le point vide qui n'était pas marqué était symbolisé par ce vide en fait entre les deux. Où il y a l'exemple aussi des veuves qui se tatouaient pour signifier qu'elles étaient veuves. Et donc les gens du village à ce moment-là savaient si telle femme était mariée, seule, veuve, si elle avait des enfants. Et puis après, il y avait des tatouages plus intimes où là, elles racontaient leur histoire, mais sur des parties plus cachées.
Alors, selon la qualité
ouais.
qu'on veut incarner, on choisit un emplacement précis sur le corps.
Oui, tout à fait. Alors, ça dépend encore une fois des femmes, évidemment, mais souvent, on retrouve la liberté sur le bras, la force tranquille sur le front, l'autorité sur une joue, la ruse et l'agilité sur l'autre joue. Et donc, c'est en effet des qualités et des valeurs que les femmes se tatouaient à des endroits bien précis.
Il y a aussi la croix.
Oui.
Symbole de puissance,
oui,
c'est ça, d'autorité, de libération de toute domination. Il y a la mouche.
Oui.
Qu'est-ce qu'elle symbolise, la mouche?
Vivacité et ardeur.
Le serpent?
Le serpent, oui, qui est symbole de vie.
Le soleil?
Le soleil, qui est symbole de puissance.
Puis il y a aussi le scorpion.
Oui, qui est symbole de courage.
Et le bateau?
Oui, qui est symbole de force.
Bon, c'est bien, vous connaissez bien votre glossaire des... des symboles des tatouages amazigh. Si on entre maintenant dans la technique de tatouage, Rim,
oui.
Comment on tatoue, qui tatoue, à quel moment, est-ce que ça répond à certains rituels ou...
Ouais, alors ça dépend des villages, mais ce que j'ai le plus souvent entendu, c'est des femmes qui étaient là de passage ou qui venaient d'autres villages et qui se baladaient. En fait, elles étaient un peu nomades et elles s'arrêtaient au village et elles demandaient qui a envie de se faire tatouer. Est-ce qu'il y en a une qui va se marier bientôt? Est-ce qu'il y en a une qui est enceinte? Et au niveau de la technique, elles utilisaient des épines de cactus avec de la suie de fond de marmite avec lesquelles elles dessinaient le motif d'abord. Et puis après, avec une aiguille, elle piquait la peau point par point et elle faisait entrer cette suie à l'intérieur de la peau. Et c'était mélangé à des herbes qui donnaient cette espèce de couleur bleutée qu'on voit sur les tatouages, qui sont un peu bleu-vert finalement. Et ensuite, les femmes utilisaient souvent du lait maternel ou du savon pour les propriétés antibactériennes et éviter les infections en fait.
Vous avez aussi dans le dos, Émile, ouais, le tatouage.
Tout à fait. Dans le dos, alors j'en ai un qui a là pour le coup beaucoup plus de sens. C'est Couscous. Et alors Couscous, pourquoi? Comme j'ai dit, je suis rebeu. Et en fait, j'ai la vie a fait que dans mon réseau social, je suis entouré de gens issus des minorités et on se charrie souvent et on se charrie de manière un peu caricaturale. Donc mon pote asiatique. Je vais lui dire des mots doux et un peu connotés asiatiques. Je vais l'appeler mon petit bol de riz ou je l'appelle citron, ou voilà. Et inversement, mes petits noms, ça va être Couscous, Harissa. Voilà. Bon, on se dit qu'on a le droit parce que c'est entre nous et que on se charrie comme ça. Et donc Couscous marque aussi ce côté un peu appartenance et revendication de ce côté rebeu. Et donc je suis allé un cran plus loin, où je me suis fait tatouer dans le dos Bougnoul, qui est un mot doux généralement utilisé par des gens qui n'aiment pas trop l'autre. Et en fait, je trouve que c'est un terme, il faut se le réapproprier, un peu comme la culture noire américaine, où ils se sont réappropriés un terme commençant par un N, qui était empli de haine. Voilà, et donc c'était un peu le même principe. Alors je pense que je suis encore le seul à m'appeler Bougnoul, donc, mais peut-être que je vais créer une trend et que tous les rebeux s'appelleront Bougnoul plus tard. Ça aurait pu être Bico, ça aurait pu être Gris, Bougnoul, ça sonne bien en bouche, je trouve. Donc il y a une espèce de rondeur dans ce terme.
À quoi il ressemble ce Bougnoul alors?
Alors attends, il faut le soulever le t-shirt, passer outre les poils dans le dos. Et il est,
tout petit.
Ah,
d'accord.
Pas petit, mais il a fait malin.
Au milieu des omoplates.
Ouais. Mais alors celui-là, en plus, il est dans le dos, donc il a vraiment tendance à disparaître de mon esprit. Mais on me le rappelle. Il y a pas longtemps, je suis allé chez l'ostéo, donc forcément, je me déshabille et il me demande de me retourner pour, je pense, analyser ma posture. Et, et là, il me fait, ah oui, c'est pas banal. Et donc moi, je pensais qu'il me parlait de ma colonne vertébrale. Donc du coup, je dis, ah ben, il se passe quoi? Je pensais vraiment que j'avais un gros problème, quoi. Il me fait, ah non, votre tatouage. Et là, je fais, ah oui, Bougnoul. Oui, non, alors c'est pas... Et donc c'est rigolo de voir la réaction des gens quand vous-même, vous l'avez oublié. Donc c'est un peu le... On se surprend à rire tous ensemble.
Love, vous avez déjà un tatouage en tête, là? Ce sera quoi le prochain?
Oh non, j'en ai plus. Je vous avoue que là, je suis arrivée à un stade où j'en peux plus. Non, là, je crois que je suis bien tatouée. Non. Mais parce que ce qui est compliqué, c'est que par exemple, celui qui est sur mon dos, qui représente un symbole amazigh, justement, mais que je l'ai fait en très très grand, bah, c'est une seule pièce, mais en même temps, elle prend tout le dos, donc c'est difficile. Non, j'ai pas compté, mais j'en ai beaucoup et je m'en rends surtout compte quand les gens me regardent ou me le disent. Mais moi, maintenant, je l'ai intégré. Enfin, bah, je crois, ouais. Des fois, je me surprends dans la douche, je suis là, « Hey !» quand je passe devant le miroir. Mais non, c'est plutôt intégré.
Quelle réaction vous suscitez dans le regard des autres?
En général, c'est assez bien reçu et très étonnamment dans l'espace public, surtout par les personnes âgées qui ne sont pas du tout en lien avec l'Algérie, mais parce que souvent elles me disent que ça ressemble à de la dentelle. On dit, ah, j'aime pas trop les tatouages, mais vous, j'aime bien. C'est-à-dire que quand on est beaucoup tatoué, on dépasse la dimension esthétique de est-ce que c'est beau, est-ce que c'est moche. Il y a un parti pris qui est tellement fort que parfois, justement, c'est moins clivant. Et étonnamment, on parlait de cette guérison, il y a une dimension de protection. Parce que bon, maintenant, je suis plus âgée, mais étant jeune, ça mettait à distance beaucoup les hommes qui voudraient m'agresser potentiellement. Parce que le tatouage est associé à deux choses. Alors, certaines esthétiques de tatouage sont associées au porno. C'est-à-dire ces tatouages très colorés, vous voyez les pièces comme ça. Parfois, moi, j'ai des copines qui sont tatouées comme ça, qui racontent des hommes qui se permettent dans l'espace public des remarques en estimant que c'est des femmes faciles. Mais le tatouage, ça a aussi une dimension de la douleur qu'on est prêt à supporter. Et c'est pas spécialement l'esthétique dominante ici. Donc, et moi, en plus, j'ai les cheveux courts. Donc, je pense qu'il y a plein de choses qui font que bah, les harceleurs, ils m'harcèlent moins. Et du coup, je vous invite à vous tatouer.
Le fait que votre ou vos grands-mères soient tatouées, Emine, est-ce que ça a joué sur votre envie de vous faire tatouer à votre tour ?
Alors, ça n'a pas joué tout de suite sur mon envie de me faire tatouer. En revanche, mes prochains tatouages, il y en a, ça va être des signes berbères. Ça, c'est certain. Mes deux grands-mères étaient tatouées sur le visage. Ma grand-mère paternelle, c'était vraiment quelqu'un de très cru, voilà, qui disait des grossièretés toutes les trois secondes, qui sniffait du tabac. La chartière, quoi. C'est... donc, voilà. Et donc, en plus, avec ses tatouages, elle était thug life avant que le thug life soit cool, quoi. Et du côté de ma grand-mère maternelle, de ce côté, elle avait trois points sur la tempe. J'avoue, j'ai jamais osé demander la signification parce que je pense que c'est pas forcément un choix. Donc j'ai jamais osé aborder le sujet parce que j'ai bien senti que c'était
touchy
et on n'en parle pas. Donc pourquoi pas reprendre l'histoire et tatouer sur mon corps.
Et du coup, vous feriez quoi comme tatouage en référence à vos grands-mères ?
Alors, je reprendrais vraiment un signe berbère classique. Ma grand-mère avait trois vagues de triangles sur le menton qui descendaient. Et donc, j'aimerais bien se faire ce signe-là. Alors, où exactement j'ai pas encore décidé. Ça serait peut-être le premier tatouage que j'afficherais. Donc, potentiellement le bras. Mais voilà. Mais j'avoue, j'ai pas encore décidé. Et c'est le genre de choses que je décide souvent avec deux facteurs. Le premier, c'est est-ce que je suis bourré ou pas le moment où je le fais. Et le deuxième, c'est est-ce que la zone fait mal ou pas.
C'était Tatouage, des mondes sur la peau, épisode 4, une histoire universelle. Avec Philippe Leu, Michael de Poissy, Franck Sénateur, Emine, Sébastien Galliot, Darumanou, Xavier Durand, Flesh Love et Rim Boudjema. Lecture, Florent Baffy. Documentation, Annie Signoret. Prise de son, Maël Larfassor, Johanna Gabric et Manon Houssin. Mixage, Dophar Guéride. Chargé de programme, Anaï Morales et Marie-Yvonne Abolivier. Coordination, Emmanuel Laurentin. Toute la série Tatouages des mondes sur la peau est à retrouver en intégralité et en podcast sur le site de France Culture et sur l'application Radio France. قلدك المساء وستالي تيكس ماكي الزهر سيفي ونتيلي